Ici François Nardou de Montcuq. Aujourd'hui, l'émission est enregistrée dans l'église Saint-Aignan de Rouzé, ancienne commune de Valbrionde, section de Moulin-Bessou, église située sous le château de Rouzé, à mi-versant, exposée vers le sud. L'église de Rouzé présente énormément d'intérêt, ne serait-ce que par ses sculptures internes, mais également par sa situation et l'histoire du lieu. Le nom même de Rouzé se rapporte à des terres de couleur rouge, des terres ocre, ou rouge comme le sang, rouge comme la terre dont Adam a été tiré lors de la création. L'église de Rouzé est une église qui est de type, je dirais plutôt pré-roman que roman. Les recherches faites par des historiens, archéologues, médiévistes britanniques sur l'Agenais et le Quercy l'a située dans le mouvement d'achèvement d'implantation du réseau des églises paroissiales, rurales dans nos régions, églises isolées, à mi-versant ou en fond de vallée, donc desservant une population dispersée. La surface de la nef permet d'évaluer grossièrement la population, une bonne quinzaine de familles, autant que de tombeaux dans le cimetière actuel. Autre élément caractéristique de ces églises pré-romanes, c'est leur aspect extérieur qui ferait penser à des granges, plan rectangulaire au sol, toit en tuiles romanes, quelquefois un campanile sur le toit qui peut être sur la façade ouest ou à la jonction entre la nef et le chœur, c'est le cas à Saint-Aignan de Rouzé. Églises qui n'ont pas de porte à l'ouest, mais toujours au sud et souvent par le cimetière. À Rouzé, la porte d'accès à l'église est extérieure au cimetière. Quelquefois, vous trouverez, comme à Saint-Géniès, une porte au nord, que l'on appelle la porte du diable, par où passaient les femmes après leur accouchement et les enfants avant le baptême. Alors, à Rouzé, beaucoup d'intérêt. D'abord, l'histoire du site de la famille. Les Rouzé ont occupé le site dit castral, le rebord de Cosse, qui forme hauteur, qui forme pêche, au-dessus de l'église, semble-t-il, dès le Xe siècle. La famille apparaît comme puissante dans les actes dès les années 1020-1030. Une chose est intéressante, c'est le fait que le saint patron de l'église est un saint de l'Orléanais, Saint-Aignan, évêque d'Orléans, vers 450. Agna nous en latin, sans igna en occitan. Or, Rouzé est entouré d'églises et de paroisses dont les saints patrons sont des saints de l'Orléanais. À Belmontet, Saint-Avid de Missy, Missy est un monastère de la région d'Orléans, à Mascayrol, Saint-Loup de Sens, donc dans la province archiépiscopale, métropolitaine de Sens, ce qui nous oriente vers la date de, si ce n'est de construction de l'église, du moins d'adoption du vocable du Saint-Patron. Pourquoi ? Parce que vers 990, un fils de la noblesse du Haut-Quercy, dit-on, peut-être des Castelnau-Bretenoux ou des Gourdons, jusque-là, moine à Fleury-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire, autrement dit. Monastère important parce que, dans la tradition, il semble être le successeur du fameux lieu dans la forêt des Carnutes où se réunissait l'assemblée générale de tous les druides des Gaules chaque année pour la Saint-Jean-Baptiste, pour le solstice d'été. Donc, un fils de la noblesse du Quercy, moine à Saint-Benoît-sur-Loire, vers 990, est élu évêque de Cahors par les chanoines et par les grands, par les nobles, laïcs du diocèse. Il est élu évêque de Cahors. Il va siéger comme évêque de Cahors pendant 20 ou 30 ans, jusque vers 1020-1030. Ce moine est un évêque réformateur. Il veut libérer l'Église de l'emprise des laïcs. Venant de l'Orléanais, c'est lui qui a dû introduire le culte des saints de l'Orléanais. Or, détail à retenir, détail curieux, nous sommes ici dans une situation, au point de vue de l'organisation administrative de l'Église, assez curieuse. Saint-Aignan-de-Rouzé, Moulin-Bessou, Valbrionde sont dans la sénéchaussée, la comté, le pays de Quercy, comme tout le reste du pays de Montcuq. Mais, au spirituel, Saint-Aignan et Valbrionde sont dans le diocèse d'Agen. La limite entre le diocèse d'Agen et le diocèse de Cahors se situe entre Saint-Aignan-de-Rouzé et Belmonté, au pied du château de Lastour, qui appartenait à la même famille que celui de Rouzé. Les Rouzé sont une famille dont la puissance s'étend sur toute la vallée de la Seuno, faudrait-il dire plutôt que Seune, depuis au moins Toufaï en aval jusqu'à Trigoful en amont, entre Lasbouig et Belmonté. Ils sont également puissants sur l'Auzerte. Ils cofonderont l'Auzerte avec le comte de Toulouse et les castagniers de Haut-Castel au XIIe, XIIIe siècle. Cette famille de Rouzé est là en position et en possession de droits éminents, de droits seigneuriaux, mais elle est également sur une zone de confins entre le diocèse d'Agen et le diocèse de Cahors. Nous sommes à proximité immédiate sur les plateaux au sud de la vieille voie romaine Cahors-Agen. Nous sommes donc là dans une situation curieuse. N'oubliez pas que la Seune porte un nom dont l'étymologie Suukona en fait la rivière qui sépare. Or, c'est une étymologie gauloise. La Seune ne sépare l'ancien pays des Cadourques, le Quercy, de celui des Nithiobrogues, la Genée, que dans la région Moulin-Bessou, Saint-Aignan, de Rouzé. Donc le nom de Seune, semble-t-il, a été donné à la rivière à partir du lieu où nous sommes. C'est aussi un lieu qui, depuis 1230, avec la partition en deux zones de l'ancienne châtellenie de Montcuq, entre au nord de la Seune, la partie qui passera sous le contrôle des évêques de Cahors, et au sud, celle qui restera aux mains des comtes de Toulouse, nous sommes donc là de nouveau dans une situation de confins et donc de conflit. Or, venons-en à notre sujet. Cette église de Saint-Aignan-de-Rouzé, d'après les archéologues médiévistes, bâtie vers le Xe siècle, en tout cas déjà en place vers l'an 1000, cette église Saint-Aignan-de-Rouzé présente des sculptures intérieures et extérieures réalisées, semble-t-il, fin XVe siècle, au moment où, c'est le détail clé, le grand homme de la famille, Ponce de Rouzé, sénéchal du roi en Quercy, d'une très vieille famille locale qui a plus ou moins fréquenté le catharisme ou le valdéisme, mais sans conséquence. Ponce de Rouzé, sénéchal du roi en Quercy et en Agenais, n'a qu'une fille, Finamando, la belle amante, l'adepte de la finamour, de l'amour épuré. Il marie Finamando avec le baron de Luzèche, Guilien de Luzèche. Là aussi, on pourrait épiloguer sur le sens de l'usès, l'Eucotiakos, le pays du dieu gaulois à la lumière éblouissante, donc du dieu du solstice d'été. Il marie finalement avec Guilien de Luzèche. Les droits des Luzèche et ceux des Rouzé s'unissent en un seul patrimoine, dont hérite le fils aîné, Antoine de Luzèche, fils de Finamand et de Guilien. Mais il y a un fils cadet, lui aussi Antoine, qui devient évêque de Cahors. À ce titre, il est à Belmonté, co-seigneur de Belmonté avec son frère, qui lui a hérité des Luzèches et des Rouzé. Et donc, à Saint-Aignan, il n'a pas de puissance directe, puisque ça dépend de l'évêque d'Agen. Mais, à Saint-Aignan, c'est son frère qui est seigneur temporel. Donc, on a, vers 1450-1500, une famille, celle des Rouzé et des Luzèches, dont un des fils est seigneur local, puissant depuis Toufaï jusqu'à presque aux portes de Lasbouig, et l'autre est évêque de Cahors. À Lasbouig, c'est l'évêque de Cahors qui est seigneur. À Belmonté également, avec donc Antoine de Luzèche-Rouzé. Or, à ce moment-là, semble-t-il, d'après l'examen du bâtiment, nos Rouzé, l'évêque et son frère le seigneur, baron de Luzèche et sire de Rouzé et Lastour, font faire des travaux de réfection dans l'église. Et les sculptures qu'ils font apparaître, qu'ils font installer, possèdent des sens particulièrement intéressants et je dirais même inquiétants. C'est ce dont nous allons parler dans le quart d'heure qui suit. Donc, nous allons attaquer le sujet. Vous avez à l'extérieur de l'église, donnant sur le cimetière, deux fenêtres. Sur le pied droit à votre droite, si vous regardez la fenêtre qui est le plus vers le cœur, vers l'est, apparaît une sculpture étrange, érodée par la pluie, donc l'on lit mal, mais on reconnaît les éléments principaux. C'est une figure féminine avec un jabot proéminent, donc enceinte, une tête et un visage de rapace, le nez remplacé par un bec crochu, un nez en bec d'aigle. Les bras sont posés sur les cuisses et apparaissent au niveau des mains et des pieds deux griffes tridactyles, c'est-à-dire que les mains et les pieds sont remplacés par des griffes à trois doigts. Ça fait donc de cette entité une figure de, je dirais, dame enceinte, parturiente, probablement en train d'accoucher, de mettre au monde, en même temps que rapace. C'est une dame rapace. Je ne veux pas aller employer le terme déesse, mais c'est l'habitude chez les historiens et archéologues. Cette déesse mère en train de mettre au monde, et qui est un rapace, évoque plusieurs choses. Alors, localement, allons du général au particulier, au niveau de l'Europe entière, c'est la déesse mère, protectrice des morts et maîtresse de la régénération, d'où sa position vers le sud, dominant le cimetière. Elle assure aux morts de Rouzette la régénération, la réincarnation, la régénérescence. La survie dans l'au-delà et le retour à la vie parmi les vivants, sous la forme de petits-enfants, par exemple par rapport à des grands-parents. Mais elle assure aussi la régénérescence de la nature. C'est une dame maîtresse de la nature. Selon Maria Gimbutas, fameuse archéologue, professeure à l'université de Californie à Berkeley, c'est une dame qui patronne les rites du solstice d'hiver. Ici, elle regarde vers l'Astour, autre château des Rouzets, où a vécu finalement Anne de Rouzet. Mais localement, allons au particulier, les Rouzets, seigneurs de Toufaille, pourraient passer pour descendants des Taifales Lichiniani, barbares, iraniens, germanisés, nomades, des Scythes, si vous voulez, des steppes de l'Eurasie, installés dans l'Empire romain comme militaires alliés de l'Empire par Constantin, après 325, du moins pour ce qui est de l'Aquitaine. Bon, ils étaient au service du co-empereur de Constantin, Licinianus, et en 325, Constantin les a installés en Aquitaine, notamment à Toufaille. Alors, ces Taifales sont aux origines du nom de Toufaille, dont les seigneurs faisaient partie de la noblesse chevaleresque de Montcuq, au XIIIe siècle, au temps des Comtes de Toulouse. Il y a un Arnaud de Tofalias, qui figure parmi les chevaliers nobles de Montcuq. Les Rouzets seraient peut-être les descendants de ces Taifales. Or, les Taifales avaient pour emblème une serpente volante, une draco volant et serpentante, si on peut dire, de couleur pourpre, la couleur impériale, mais aussi couleur du soleil d'Occident, du soleil couchant. Cette dame rapace de Rouzet serait-elle une figure de la draco des Taifales? Ce ne serait pas impossible. Serait-elle la manifestation de la puissance des Rouzets sur leur pays, sur leur seigneurie, incarnée qui se manifesterait à travers la référence à une figure divine, pré-chrétienne, dont ils seraient en quelque sorte les mainteneurs et l'incarnation à travers le personnage de leur fille aînée? Pensons à Finamande. C'est une extrapolation un peu osée, mais qui ne pourrait avoir un sens. Quand on entre dans l'église, on est affronté à un phénomène curieux. Vous avez devant vous un bénitier posé sur un socle, socle marqué de triangles isocèles, tantôt point en haut, tantôt point en bas, et qui sont au nombre, autant qu'ils m'en souviennent, de 6 ou de 8, chiffre important. Les fonts baptismaux sont dans l'angle sud-ouest, mais ces triangles isocèles à pointes opposées sont aussi intéressants. Pourquoi ? Parce que Maria Gimbutas, dans son fameux ouvrage « Le langage de la déesse », montre très bien que ces triangles isocèles, jumeaux ou à pointes opposées, vont toujours de pair, depuis le paléolithique, avec les lieux, ou avec les rites, ou avec les sites, où se célébraient des rites de la déesse vautour, de la déesse rapace, maîtresse des morts et de la régénérescence et régénération de la nature, donc celle qui est sculptée ici à Rouzet. Ces triangles, on les retrouve sur la base de la colonne d'angle du cœur à l'angle sud-ouest. Ils sont là marqués de petites sculptures qui ne sont visibles qu'à la lumière rasante. Quand on est dans la nef, qu'on regarde vers le cœur, on a en face de soi la fenêtre absidale qui, en principe, devrait indiquer le jour de la fête de Saint-Aignan, 17 novembre, c'est-à-dire le lever du soleil le matin du 17 novembre. Dans la plupart des cas, elle indique plutôt le lever du soleil le matin de la Saint-Jean-Baptiste, solstice d'été, 24 juin. Il faudrait vérifier ici ce qu'il en est. Alors, quand vous entrez, quand vous êtes dans la nef, que vous regardez vers le chœur, on note la présence de ce qu'on appelle un arc triomphal qui sépare la nef du chœur. Cet arc triomphal, c'est un mur percé d'une ouverture en ogive avec des chapiteaux qui ne sont pas sculptés, ils sont nus ici. Et il sépare donc la nef du chœur. On accède au chœur par un degré, par une marche d'escalier. Même chose à Rouillac, du reste, où là aussi l'entrée de l'église est au sud. Et cet arc triomphal vous empêche de voir les éléments sculptés dans les angles à droite comme à gauche. D'ailleurs, l'angle sud-ouest et l'angle nord-ouest. Par contre, on peut voir ce qui est sculpté dans les angles du fond de l'abside. Alors ici, le chœur est carré. Le chœur est carré, l'abside donc est à plan carré. Il y a un banc de pierre qui court au bas des murs. Chose qu'il faut dire, c'est que vous avez une voûte fin 15e siècle, refaite sous l'épiscopat d'Antoine de Luzèche-Rouzet. Ces colonnes d'angle semblent porter la nef par les arcs, les arêtes, les ogives, mais en fait elles n'ont aucune utilité. Elles ne sont là que pour montrer ce qui est sculpté sur les colonnes et sur leurs chapiteaux, comme sur leur base. Alors, on a donc lui là la volonté, en établissant des contreforts extérieurs qui supportent la voûte, ainsi que le font les murs, on a donc là la volonté d'inclure dans l'église des colonnes d'angle engagées, dont le but est uniquement, non pas décoratif, mais d'enseignement. Celle qui est à votre droite quand vous entrez dans le chœur est une des plus impressionnantes. Vous avez une base composée de trois éléments, coupée en trois pans, avec des gorges, des gorgerets, des socles. En bas, vous avez trois niveaux successifs, ce n'est pas le plus important. Une colonne nue, un chapiteau sculpté. Sur la colonne, une sculpture dans laquelle tout le monde voit une tortue, et sur le chapiteau sculpté, un élément extrêmement curieux. Vous avez là, et il faut le regarder de près, et à lumière rasante, sur le chapiteau de l'angle sud-ouest, à droite cantonnante, vous avez sculpté une tête représentant un faciès bovin, un nez proéminent, des yeux enfoncés dans les orbites, des sourcils susorbitaires très prononcés, des oreilles qu'on assimilerait à des oreilles de bovidés, de bœuf, et ce qui pourrait passer pour des cornes de bélier, mais qui me fait penser plutôt à des espèces de crosses épiscopales tournées de façon opposée. La bouche est ouverte comme s'il parlait. Je me suis donc demandé de quoi il pouvait s'agir. Là, la réponse m'a été donnée par Robert Graves, professeur à Cambridge, et par son collègue Raphaël Patay, professeur dans une université hébraïque, dans leur fameux ouvrage sur les mythes hébreux. La réponse est venue très facilement. Il s'agit de la représentation d'un personnage des légendes hébraïques fondé sur l'Ancien Testament, mais vous ne trouverez jamais cela dans la lecture de la Bible. Alors, les légendes juives veulent que, avant la création, dans la pensée de Dieu, un archange régnait sur le concept du paradis futur et de la future création. En quelque sorte, Dieu, pensant la future création, avait déjà créé un archange supérieur qui gouvernait celle-ci. Il était le futur organisateur du monde. Cet archange portait le nom de Samaël, ce qui veut dire le venin de Dieu, donc la puissance mauvaise qui est en Dieu. Ça rejoint les concepts de certains rabbins kabbalistes disant qu'il se pourrait qu'aux origines il y ait eu deux puissances opposées, le bien et le mal. Selon Graves et Patay, dans leur ouvrage sur les légendes juives, les mythes hébreux, chez Fayard, Samaël, venin de Dieu, est un archange assimilé au serpent tentateur de la Genèse, archange déchu. Mais il fut d'abord, avant la création, la force, la puissance mauvaise qui est en Dieu. Dieu comme auteur du bien et du bon, du mal et du mauvais. D'abord, plus grand prince du ciel, gouvernant les anges et les puissances que manifestent les planètes, Samaël tente, envisage, pense et désire de créer un univers autre qui lui appartiendrait, accomplir une autre création. Il devient le grand pervertisseur de la création. Il incite Dieu à créer dans et par les ténèbres un monde noir de désespoir absolu. En Éden, le paradis terrestre créé par Dieu, il agit d'abord en lieutenant de Dieu, tenant la place et les fonctions de celui-ci auprès d'Adam. Après l'expulsion hors de l'Éden, Samaël aurait engendré Caïn par Ève. Voilà ce que nous résument Patay et Graves. Chassé du ciel, Samaël, prince des ténèbres, est devenu, c'est la sculpture de Saint-Aignan-de-Rouzé, semblable à un bœuf, d'où le faciès sculpté ici. Il est enfermé dans un lieu sombre. Il y demeure, le visage hagard, muet, lèvres scellées et sourd. Avant sa chute, je lis l'œuvre de Patay. Avant la création, dans la gloire, il avait été assimilé à la planète du quatrième jour, notre mercredi. Il est donc l'équivalent du Mercure latin, auquel a succédé Saint-Michel, qui gouverne le quatrième jour de la semaine. Alors, il faut voir que Samaël, qui avait envisagé de remplacer Dieu comme maître de la création, fut déchu de sa fonction pour usurpation. L'archange déchu Samaël est chassé hors de l'Éden par Saint-Michel, qui le remplace, est assimilé au Proche-Orient à bien des personnages de la mythologie, à des monstres notamment, monstres responsables de tempêtes, d'ouragans et de catastrophes de fin du monde. Pour les gnostiques, les adeptes de la connaissance supérieure réservée à des initiés, Samaël serait le démiurge, le serpent animateur de la matière et formateur du monde. Dans les légendes juives, c'est lui qui incite Adam et Ève à enfreindre le tabou majeur établi par Dieu et à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il les y incite en leur assurant qu'ils deviendront comme des dieux. Ils deviendront des dieux, ils deviendront des Elohim. Or, dans le Proche-Orient ancien, ce qui caractérise les Elohim, qui sont d'abord des divinités des hauteurs, ce que veut dire la racine El, peut-être aussi des divinités des arbres, c'est leur immortalité. Dans ce même Proche-Orient ancien, l'immortalité a pour figure, comme animal, la tortue. Qu'est-ce que c'est qui est sculpté ici à Saint-Aignan, sous le faciès de Samaël? Une tortue qui monte vers le faciès bovin de Samaël. On est donc là, avec les sculptures de cet angle sud-ouest, dans un monde de légendes et de mythes qui est celui du Proche-Orient ancien et qui ressurgirait dans notre Kersiblan fin 15e siècle, époque où se développe partout en Europe ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne. On aurait donc là peut-être un écho, un effet de la présence en Kersi de kabbalistes chrétiens qui auraient œuvré sous le patronage ou la protection d'Antoine de Luzèche-Rouzé, évêque de Cahors et frère du Seigneur du lieu. Dans l'angle à gauche, quand vous entrez, vous avez une colonne sculptée sur sa base, marquée de triangles, tantôt pointe vers le ciel, tantôt pointe vers le bas, toujours le signe de la déesse vautour de Maria Gimbutas. Des motifs sculptés qui n'apparaissent qu'à la lumière rasante et qui sont difficiles à identifier à l'œil nu. Motifs sculptés qui me paraissent certes intéressant parce qu'on les retrouve sur les sculptures de l'angle opposé, à l'angle sud-est. Alors ces sculptures de la base sont difficiles à décrire puisqu'on ne les voit qu'à lumière rasante. Vous avez surtout comme élément clé deux formes de pointes de flèches évidées, comme les jambes du Hadi de Charlemagne à Conques, qui sont le signe, la reproduction de glyphes anciens signifiant fondation d'un sanctuaire, d'un lieu sacré, par une autorité supérieure, de nature ou d'origine divine. Ça veut dire que le lieu en question est un sanctuaire fondé par les dieux, ou par Dieu, ou par une autorité représentant Dieu. Alors, cette colonne que nous avons ici sous les yeux, dans l'angle à gauche quand vous entrez, est très intéressante. Pourquoi ? Vous avez d'abord figuré, sculpté, un serpent lové, tête vers le bas, opposé à la course du soleil dans le ciel. Au-dessus, un serpent ondulant, dont la tête descend vers une boule sculptée dans la pierre. Entre les deux, un faciès. Un faciès aux yeux à peine ébauchés, le nez à peine visible, la bouche serrée. Dans l'angle, sous le serpent levé, il y avait, semble-t-il, une partie en pierre qui a été bûchée, martelée. On n'en voit pas davantage. Le serpent levé pourrait être interprété comme signifiant ou évoquant l'énergie latente, l'énergie à l'état de dormance avant l'animation du monde. Il reprend la forme des cornes de bélier, ou de ce que je croyais être des cornes de bélier, sur la tête du Samaël de l'angle à droite quand on entre. Vous avez le Samaël à faciès de bovidé, a sur le crâne deux cornes en forme de crosse d'évêque. Ces formes en crosse sont celles qui, depuis au moins, je dirais, l'âge du bronze ou même plus avant, partout en Europe, signifient le pouvoir et le pouvoir sur la nature. Le pouvoir qui permet à des entités masculines, mais quelquefois aussi féminines, d'animer la nature, de la régénérer et, prenez le cas de la légende de Saint-Jean le Froid, en frappant le rocher, de faire sourdre des sources, de faire naître des sources. Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-le-Froid frappe le rocher d'un bâton en forme de crosse, exactement la même forme que les cornes du Samaël ici à Saint-Aignan-de-Rouzé. En plus de ça, les crosses du Samaël de Saint-Aignan-de-Rouzé sont marquées de stries, au nombre de 3. Les yeux du Samaël sont sculptés en spirale, et en spirale concentrique, comme le serpent levé de l'angle à gauche quand on entre. Il y a une correspondance entre les deux. Ces spirales concentriques du Samaël sont celles que l'on voit très bien sur la peinture, la gravure de la grotte des trois frères et qui nous montrent le fameux sorcier dansant, le chaman dansant, dans la grotte des trois frères à Niaud, dans l'Ariège ou dans la Haute-Garonne. Les yeux sculptés en spirales concentriques signifient la vision au-delà du réel manifesté, donc signifie que l'individu en question est en pleine crise, en pleine transe chamanique. Il voit au-delà du réel. Et ici, c'est le Samaël de Saint-Aignan-de-Rouzé qui assume les mêmes fonctions que Agneau, le sorcier dansant revêtu d'une peau de cerf de la grotte des Trois Frères. La sculpture de l'angle gauche quand on entre, par ce serpent levé, signifie que nous sommes d'abord avant, je dirais, non pas la création du monde, mais l'organisation du monde. On est donc dans le même temps que Samaël dans le mythe. Samaël existe, vit et avant même la création, dans la pensée de Dieu. Nous sommes ici, à Saint-Aignan-de-Rouzé, dans le temps où Dieu pense le monde, avant la création. Puis, le serpent levé, dont la tête pique vers le bas, sur une partie en pierre qui a été bûchée malheureusement, nous ne saurons jamais ce qu'il y avait, ce serpent levé devient un serpent ondulant, un serpent animé, selon un schéma, une structure qui est aux origines de notre lettre M, qui est un signe que l'on trouve dès le paléolithique, qui désigne l'eau qui coule. On le retrouve en hiéroglyphes égyptiens, on le retrouve dans l'alphabet grec, c'est la lettre mu de l'alphabet grec, c'est notre lettre M, ça désigne l'eau qui coule, mais aussi le temps, le flux du temps d'Héraclite, ce temps qui est un fleuve dans lequel on ne se plonge, on ne se baigne jamais deux fois. C'est aussi le flux de l'énergie universelle qui est manifesté dans le paysage, dans la nature, par les sources et les courants d'eau souterrains. Sources qui, dans la vision de nos ancêtres, étaient des têtes de serpents souterrains. On imaginait les courants d'eau souterrains comme des serpents qui ressurgissaient sous forme de source, qui était la tête de ces serpents. Le serpent ondulant de Rouzé pique ou va piquer une masse informe, ce qu'on appelle la materia prima, la matière primordiale. Il va l'animer. Apparaît alors un visage informe, les yeux à peine ébauchés, le nez à peine visible, la bouche serrée, le menton bûché d'un coup de marteau, le crâne très développé. Dans l'imaginaire ancien, le développement du crâne vers le haut signifie la puissance de l'âme. On considère que l'âme, l'esprit sont présents dans le front. C'est très net chez les Gaulois, par exemple, qui développent démesurément le crâne des personnages sculptés, représentés pour signifier qu'ils ont, comme on dit en français, une grosse tête. Ce sont des têtes, comme l'on dit. Ce personnage qui apparaît, ce serait l'Adam Kadmon, l'Adam des origines. Adam, avant même le péché, le premier Adam. Avant la chute, on est là dans une perspective qui nous amène vers la reprise des trois petits éléments sculptés qu'on ne voit qu'en lumière rasante sur le socle de la sculpture. Vous avez toujours ces fameux triangles, tantôt pointe vers le haut, tantôt pointe vers le bas, qui signifient qu'on est là dans le domaine du culte de la déesse mère, patronne des morts et de la régénérescence de la nature. Ces trois signes sculptés sont des signes qui signifient que le lieu est un sanctuaire fondé par une autorité investie d'un pouvoir divin et en un lieu qui est un lieu central, d'où les croix qui sont à gauche sur le socle. La croix, depuis le paléolithique, signifie que vous êtes dans un lieu central, un lieu pivot, un lieu axial. Et ces deux colonnes dans les angles de Saint-Aignan-de-Rouzay sont opposées en diagonale, qui se croisent à la clé de voûte du cœur. Elles sont opposées à des sculptures qui sont dans les angles, donc en diagonale opposée. C'est-à-dire que la sculpture du Samaël à l'angle sud-ouest est opposée aux sculptures de l'angle nord-est. La sculpture du serpent lové, du serpent ondulant de l'angle nord-ouest est opposée aux sculptures de l'angle sud-est. Et au sommet se trouve la clé de voûte qui porte le blason des Rouzay, au lion solaire, donc au lion du solstice d'été. Alors, quand on se tourne vers les angles opposés, vous avez en face de Samaël une sculpture, c'est beaucoup plus simple à expliquer, il n'y a vraiment d'intéressant que les trois fleurs en forme d'étoile qui se trouvent sur le chapiteau supérieur, trois fleurs en forme d'étoile avec deux corolles, une corolle extérieure, une corolle intérieure, un bouton central. Les deux corolles sont composées de cinq pétales, pétales qui, si l'on joint les lignes extrêmes des courbures par des tangentes, dessinent un pentagramme, c'est-à-dire une étoile à cinq branches, légèrement désaxée vers notre droite d'environ 23 degrés, ce que l'on retrouve dans toutes les sculptures des églises de la vallée de la Séoune. Alors, pourquoi ces fleurs en forme d'étoile? Ça rejoint les légendes hébraïques de Pataï et Graves. Samaël régnait sur le paradis futur, qui était constitué de prairies d'étoiles brillantes, de fleurs étoiles brillantes. Ces fleurs étoiles brillantes, ce sont les étoiles du ciel. Samaël était donc le maître des étoiles du ciel. Il était le Baal Sabaoth, que va devenir le Yahvé Elohim de la Bible. Le Deus Dominus Sabaoth, le dieu de la voûte céleste, nocturne, brillante d'étoiles. Et le maître des étoiles, c'est la lune. Notre Samaël voit en face de lui les étoiles du paradis futur dont il a été chassé et expulsé, devenant la figuration de l'antidieu, de la figuration de l'ange maître du mal, enfermé au fond des abysses, dans un cachot, si on peut dire, d'où il ne pourra ressortir qu'à la fin des temps. La tortue qui monte vers lui, je vous le disais tout à l'heure, est le symbole de l'immortalité. N'oubliez pas que dans le pays de Mongkuk, un ruisseau porte le nom de ruisseau de la tortue. Il naît à Eskeirak, passe à Saint-Géniès et Rouillac. On retrouve ce nom de ruisseau de la tortue partout en pays de Mongkuk où vous avez des sites qui sont marqués par des sources considérées comme des portes d'entrée du monde des morts, que ce soit au Touron, dans la Kumbo Peyrouz ou entre le château de Chari et Gounou. Vous avez là des petits ruisseaux qui portent le nom de Tartuguier comme le grand Tartuguier de Rouillac. Or, le Tartuguier, c'est le ruisseau de la Tartugo. La Tartugo, c'est la Tartaruca, c'est la bête du Tartare, c'est la bête qui sort du fleuve des Enfers. Donc, c'est la bête qui, si vous voulez, est une figuration de la déesse qui règne sur les morts. On retrouve là la symbolique de la sculpture extérieure de l'église de Rouzay, cette dame rapace dominant le cimetière. Alors, vous avez ensuite les dernières sculptures d'angle sud-est, sont les plus intéressantes. Ce sont celles qui m'ont toujours marqué. Alors, ce sont des sculptures comme celle de l'angle aux fleurs étoiles que l'on voit de la nef. Alors, vous avez d'abord, sur le chapiteau, que l'on voit très bien de la nef, deux visages ronds, le menton à peine marqué, les yeux, le nez et la bouche marqués, et qui se caractérisent par ceci, que le visage vers notre gauche, son œil droit ouvert, son œil gauche fermé, et il a la bouche, autant que je vois bien, la bouche, semble-t-il, est fermée, elle est scellée. Il voit, mais ne parle pas. Son voisin à notre droite, il a son œil gauche ouvert, son œil droit fermé, et la bouche est ouverte. Donc il voit d'un œil et parle. Si l'un voit de son œil droit et ne parle pas, l'autre ne voit pas de son œil droit et parle. C'est en quelque sorte un duo. Et vous avez au-dessus, qui est intéressant, une cordelette qui marque la tête du chapiteau. Cette cordelette, disons-le de suite, elle signifie le pouvoir sur les lieux des seigneurs du château de Rouzé. Ce que conforte la présence dans le cœur de la corde par laquelle on peut animer la cloche. Lorsque la corde du clocher est dans le cœur, ça signifie que le seigneur du lieu est maître au moins du cœur de l'Église. Il en est responsable, c'est lui qui le finance, alors que les laïcs financeront dans ce cas-là la nef. Donc là, la cordelette sculptée sur le chapiteau de l'angle sud-est, on la retrouve dans toutes les églises romanes, et elle signifie le pouvoir temporel du seigneur du lieu sur l'Église. Il y a en dessous, entre les deux visages, un motif à huit doigts que je n'arrive pas à identifier. Vous avez ensuite, sur la colonne, un motif sculpté qui a été martelé, malheureusement. À première vue, avec d'autres personnes, nous avons cru y identifier un Osiris, d'autres y verraient un évêque. On voit très nettement que le personnage porte une espèce de tiare sur la tête. Il semble appuyer son bras droit sur un bâton, donc une crosse, la crosse du pouvoir de régénération de la nature. Peut-être tient-il un objet de sa main gauche. Selon que l'on le voit de profil ou de face, on voit plus ou moins bien. C'est de profil que l'on voit le mieux et que l'on identifie véritablement soit un Osiris, soit un chaman, avec la tiare conique sur la tête. On peut y voir, si l'on veut, la figuration de Saint-Aignan d'Orléans, j'en doute fort. Alors, surtout, la base de cette colonne est marquée de sculptures coupées en plusieurs pans, il y a cinq pans. La base de la colonne est marquée sous un petit bourrelet de sculptures, d'une frise de sculptures. La première et la troisième évoquent un faciès de pleine lune, la seconde une fleur de lys, la quatrième le A de Charlemagne, jambes écartées, que l'on retrouve sur le socle de la colonne sculptée de l'angle à gauche quand on entre, et ensuite un arbre axé, comme un résineux qui aurait perdu ses feuilles. Vous avez un axe central, trois petites racines, et les branches latérales qui s'insèrent sur le tronc. Alors, l'interprétation que l'on peut faire, à cause du A de Charlemagne, c'est un glyphe qui signifie que l'on est dans un lieu, un sanctuaire fondé par une autorité supérieure investie de pouvoir surnaturel. La fleur de lys, c'est Anne Lombard-Jourdan qui le montre dans ses œuvres, c'est la fleur du solstice d'été, c'est l'iris d'eau. Vous avez là deux figurations de visages en pleine lune, et un arbre qui est un axe pivot du monde. Ça signifie quoi? Que nous sommes là en un lieu qui est un lieu sacré, fondé par une autorité supérieure investie de pouvoir d'origine divine, d'où la figuration du blason des Rouzé en clé de voûte au lion solaire, lion du solstice d'été. On est donc là dans un lieu dont les figures sculptées font un site particulièrement sacré, un site centre du monde, et en lien avec les plus vieux cultes de l'Europe ancienne et de la Méditerranée. Voilà ce que je comptais vous dire aujourd'hui. Il aurait fallu davantage de temps. L'église paroissiale Saint-Aignan de Rouzé est toujours ouverte au public. Le responsable des lieux qui tient la clé, comme on dit ici, est monsieur Jacques Laure, qui habite au Terron, à faible distance de l'église. Vous êtes dans un site extrêmement agréable, marqué par de grands arbres, de grands chênes, avec l'ombre, la fraîcheur, le vent qui remonte à la vallée de la Séoune, venant de la Garonne et de l'Atlantique. C'est un paradis sur terre que l'on ne quitterait pas. L'église est entourée d'un patus ecclésial, aire d'asile, une vraie prairie ombragée, très agréable à vivre. sous le château de Rouzé, qui est connu notamment par les recherches de Didier Pamphili, aujourd'hui professeur d'histoire du Moyen-Âge à la Sorbonne, et qui a fait sa maîtrise sur les mottes castrales et lignages seigneuriaux du Quercy blanc, notamment de Montcuq, et sa thèse sur la noblesse du Quercy et du Toulousain. Didier Pamphili est très intéressé par l'histoire du Quercy. Je recommande ses œuvres.